Troisième partie, l'appel de la lumière. Jeudi 22 décembre. Chapitre 10. Derrière la lumière. Le noir n'est pas une couleur. Georges Clémenceau. 1. Je suis en route, je vous rejoins dans 10 minutes. Diane Raphaël. Madeleine prit connaissance du SMS de la psychiatre de Lorenz en arrivant devant les deux flèches de la basilique Sainte-Clotilde. Il était 8h30 du matin. L'air était plus frais et sec que la veille. Orpheline de son scooter qu'elle n'avait toujours pas récupéré rue de Seine, elle était venue en trottinant depuis la rue du Cherche-Midi. Un jogging salutaire pour réveiller son organisme. Elle s'était endormie à 3h et levée à 6. Les dernières heures avaient été éprouvantes. Physiquement, d'abord, puisqu'il avait fallu rapatrier discrètement les toiles de l'école jusqu'à la maison, intellectuellement et émotionnellement ensuite, avec une question qui pour l'instant n'avait pas trouvé le moindre début de réponse. Pourquoi, quelques jours avant sa mort, Sean Lorenz s'était-il persuadé que son fils était encore en vie? Main sur les genoux, Madeleine reprit son souffle en songeant à Gaspard. Depuis qu'ils avaient mis au jour le message du peintre, écrit en lettres luminescentes, le dramaturge ne tenait plus en place. Lui, qui ne connaissait rien à Internet, avait passé une partie de la nuit à écumer les sites web des grands médias américains. Ce qu'il avait découvert l'avait décontenancé. Plusieurs articles parus dans les jours qui avaient suivi le drame indiquaient en effet que le corps du petit Julian n'avait pas été retrouvé dans l'entrepôt où Pénélope avait été séquestrée. En reconstituant la dérive meurtrière de Béatrice Munoz, les enquêteurs avaient conclu que l'Achillienne avait jeté le cadavre de l'enfant dans l'estuaire de Newtown Creek, au sud du Queens. Les flics avaient récupéré la peluche tachée de sang du gamin sur une des berges du cours d'eau. On y avait envoyé quelques plongeurs, mais l'endroit, l'un des plus pollués de New York, était difficile d'accès et, à ce niveau du fleuve, le courant était trop fort pour espérer retrouver un si petit corps. Malgré ça, la version de Pénélope Lorenz, qui avait toujours affirmé que son fils avait été poignardé sous ses yeux, n'avait jamais été remise en cause. Et Madeleine n'avait objectivement aucune raison de le faire. D'après les articles qu'elle avait consultés, tout laissait à penser que Munoz avait agi sans aucune complicité. La mort du gamin ne faisait aucun doute. Son sang avait été retrouvé partout. Dans la camionnette qui avait servi à son enlèvement, dans l'entrepôt du Queens, sur les rives de Newtown Creek. Madeleine décida d'attendre la psychiatre à la terrasse chauffée du café qui s'ouvrait sur les jardins de la basilique. Elle avait sollicité ce rendez-vous au bureau de Diane Raphaël une heure plus tôt en lui envoyant par SMS plusieurs photos des tableaux de Sean Lorenz. Elle s'installa sous un brasero et commanda un double expresso. Sur l'écran de son téléphone, un mail d'Air France lui rappelait qu'elle devait s'enregistrer pour son vol vers Madrid. Départ 11h30 de Charles de Gaulle, arrivée dans la capitale espagnole 2 heures plus tard. Elle effectua les formalités en ligne, avala le café trop court qu'on venait de lui apporter et en commanda aussi sec un deuxième qu'elle dégusta en repensant à leur expédition de la nuit passée. Contrairement à Gaspard, ce qui l'avait le plus troublé, ce n'était pas le message aux lettres phosphorescentes qu'elle trouvait farfelu. C'était tout le reste. En particulier, le voyage quasi spirituel décrit par Sean Lorenz à travers son triptyque. Un voyage qu'elle connaissait d'autant mieux qu'elle l'avait elle-même fait quelques mois auparavant. Lorsqu'elle s'était tailladé les poignets dans sa baignoire, Madeleine avait dérivé avant de perdre connaissance. Lentement, elle s'était vidée d'une partie de son sang étourdie par la vapeur brûlante. Elle avait sombré, parcouru à l'aveugle un paysage de brume. Et elle était certaine que c'est cette même dérive qu'avait cherché à représenter Sean Lorenz dans ses dernières peintures. D'abord, le noir. L'interrupteur qui se tourne et qui vous déconnecte du monde, vous renvoyant brièvement à vos tourments. Le labyrinthe de votre propre détresse, le cachot qu'est devenu votre existence. Puis la traversée d'un long tunnel obscur qui finit par déboucher sur une lumière chaude, douce, diffuse. Cette merveilleuse sensation de flotter dans une mousseline de nacre, de franchir un no man's land cotonneux, de se laisser porter par le zéphyr d'une nuit d'été, guidée par des milliers de veilleuses d'une brillance de perles. Ensuite, Madeleine avait eu cette impression déconcertante de se détacher de son corps jusqu'à pouvoir observer les secouristes penchés sur elle, qui essayaient de la réanimer avant de la charger dans une ambulance. Elle était restée un moment avec eux et avec Jules sur le trajet de l'hôpital. Puis, elle avait retrouvé la lumière. Une spirale flamboyante qui l'avait avalée, la projetant dans un torrent impétueux et opalin où elle avait été saisie par le vertige panoramique du film de sa vie. Elle avait aperçu la silhouette et le visage de son père, de sa sœur Sarah, de son oncle Andrew. Elle aurait bien aimé s'arrêter pour leur parler, mais elle ne pouvait pas stopper le courant qui l'emportait. Un courant chaud, enveloppant et tendre, plus fort que tout. À ses oreilles, un chuchotement très doux qui ressemblait à des chants célestes et qui vous ôtait toute envie de revenir en arrière. Pourtant, Madeleine n'était pas allée au bout du tunnel. Elle avait presque touché du doigt la frontière, celle qui ne se laisse franchir que dans un seul sens. Mais quelque chose l'avait rappelé. L'intuition que l'histoire de sa vie méritait peut-être un autre épilogue. Lorsqu'elle avait ouvert les yeux, elle était dans une chambre d'hôpital, intubée, cernée par les perfusions et les bandages. Madeleine savait très bien qu'en soi, son expérience n'avait rien d'extraordinaire. Il existait des dizaines de milliers de récits semblables aux siens. Les expériences de mort imminente étaient décrites dans la culture populaire à travers une multitude de romans et de films. Bien sûr, elle était sortie transformée de ce voyage. Pas forcément plus encline à croire à une vie après la mort, mais avec l'envie de vivre pleinement le temps qui lui restait, de se délester de tout ce qui n'était pas important, de donner un sens autre à sa vie, et donc d'avoir un enfant. Le souvenir de l'EMI était encore parfaitement gravé dans sa mémoire, comme si elle l'avait vécu la veille. Rien ne s'était estompé. Au contraire, les sensations s'étaient même affinées, les images s'étaient précisées. La sérénité du voyage, l'appel entêtant de la lumière. Et c'est cette lumière que Lawrence avait réussi à peindre. Dans toutes ses nuances, dans toute son intensité. Cette putain de lumière qui, inexplicablement, rayonnait comme les soleils trompeurs d'un amour radieux.
Vous êtes Madeleine Green ?
L'interpellation l'attira de sa rêverie. Une femme souriante se tenait sous le brasero de la terrasse. La quarantaine, vêtue d'un perfecto en cuir beige et portant des lunettes de soleil couleur de miel.
« Je suis Diane Raphaël », déclara-t-elle en lui tendant la main.
2. Cette fois, Coutances n'avait pas eu à insister longtemps pour être reçu par Pénélope. Il s'était présenté rue Saint-Guillaume, dès Potron-Minet, un lourd tableau sous le bras. Lorsqu'il s'était annoncé à l'interphone, l'ex-femme de Lawrence lui avait ouvert sans même savoir ce qu'il voulait. Gaspard sortit de l'ascenseur en haletant. Philippe Carreia n'était pas là pour assurer le comité d'accueil, il ne devait pas être levé. La porte était déverrouillée. Gaspard pénétra dans le hall d'entrée en faisant glisser sur le parquet le cadre en noyer qu'il avait entouré d'une couverture. Pénélope l'attendait, assise sur un canapé du salon dans la lumière froide du matin. L'éclairage naturel, bleuté, marmoréen, avait le double mérite de laisser dans la pénombre la décoration tapageuse et de n'offrir de la veuve Lawrence qu'une silhouette en clair-obscur, la mettant plus à son avantage qu'un éclairage trop cru. « Chose promise, chose due », annonça-t-il en installant sur le canapé en cuir grainé le tableau, toujours protégé par son plaid en grosse laine.
« Du café ?»
lui proposa-t-elle en l'invitant à s'asseoir sur une ottomane. Vêtue d'un jean gris délavé et d'un vieux t-shirt poivre blanc, Pénélope semblait être restée coincée dans les années 1990. En la voyant pour la deuxième fois, Gaspard la trouva moins monstrueuse. Son visage plastifié paraissait moins figé que lors de leur dernière rencontre. Sa bouche en canard ne donnait plus l'impression qu'elle allait se déchirer chaque fois qu'elle prononçait une parole.
« L'homme s'habitue à tout », pensa-t-il, en empoignant une cafetière moka posée sur la table basse. « Donc vous avez trouvé ce que vous cherchiez », constata-t-elle en désignant le cadre.
Sa voix, en revanche, n'avait pas changé. Sourde, éteinte,
enroué comme si une portée de chat s'était nichée dans sa gorge. Nous avons mis la main sur l'étoile et il y en a une que vous devez voir. Elle soupira.
Ce n'est pas un portrait de Julian au moins.
Pas exactement.
Je ne l'aurais pas supporté.
Gaspard se leva et, sans effet de manche, souleva la couverture pour dévoiler à Pénélope le dernier tableau de son ex-mari. Installée près des deux hautes fenêtres, la toile se révélait dans toute sa splendeur. Gaspard avait même l'impression de la redécouvrir. Une lumière enchanteresse et fascinante semblait en sortir et danser devant la peinture.
C'est le privilège des artistes de continuer à vivre à travers leurs œuvres, constata Pénélope.
Lentement, Gaspard tira les quatre rideaux pour plonger la pièce dans l'obscurité.
« Qu'est-ce que vous faites ? » s'inquiéta-t-elle.
Puis, elle aperçut les lettres luminescentes et leur mystérieux message. « Julian est vivant. »«
Ça suffit. Ouvrez ces rideaux !» ordonna-t-elle.
Une véritable fureur s'était emparée d'elle, empourprant et déformant son visage, soulignant ses sourcils trop hauts, son nez trop fin et ses joues de hamster. « Pourquoi Sean était-il persuadé que votre fils était vivant ?» demanda Gaspard, impitoyable.
« Je n'en sais strictement rien !»
cria Pénélope, qui avait bondi du canapé, dos tourné à la toile. Il lui fallut plus d'une minute pour se calmer et lui faire face de nouveau.
« Quand vous m'avez interrogé hier, j'ai prétendu ne pas me souvenir de ce que m'avait dit Sean lorsqu'il a téléphoné de New York quelques minutes avant sa mort. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas prononcer ces mots, mais... Oui, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Notre fils est vivant, Pénélope.
Comment avez-vous réagi ?
Je l'ai insulté et j'ai raccroché. On ne joue pas avec la mort des enfants.
Vous n'avez pas cherché à savoir ce qu'il...
Mais à savoir quoi ? J'ai vu mon fils se prendre des coups de couteau. Je l'ai vu être massacré par le diable en personne. Vous comprenez ? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu.
Et Gaspard lut dans ses yeux qu'elle lui disait la vérité. Pénélope hoqueta, mais refusa de se donner en spectacle. Elle s'empressa de ravaler ses larmes et tint à préciser
« Il n'y avait pas d'issue à ma relation avec Sean. Il me reprochait sans cesse d'être responsable de la mort de Julian. »
« Parce que vous aviez menti sur votre destination le jour où il a été enlevé ?» Elle acquiesça.
« Peut-être que si les flics avaient débuté leurs recherches dans ce secteur, il serait arrivé à temps pour le sauver. Sean le pensait en tout cas, et j'ai longtemps porté cette culpabilité. Mais si on va au bout de la logique, c'est Sean qui a l'antériorité de la faute. »
Gaspard comprit que Pénélope rejouait un match qu'elle avait déjà dû revivre des milliers de fois depuis 2 ans.
S'il n'avait pas incité Munoz à l'accompagner dans ses braquages, elle n'aurait pas nourri ce ressentiment criminel.
Il n'en convenait pas ?
Non. Parce qu'il prétendait qu'il avait fait cela pour moi, pour trouver de l'argent et me rejoindre à Paris. Je vous l'ai dit, c'était sans issue. Tout était ma faute.
Gaspard fut à son tour saisi par une étrange tristesse. Il se leva et prit congé de Pénélope.
J'ai senti tout de suite que vous étiez honnête, monsieur Coutances.
Pourquoi dites-vous ça ?
Parce que vous n'avancez pas masqué.
Un peu hors de propos, Pénélope ajouta
« Dans la vie, il y a les bons gars et les autres. La ligne de démarcation est claire. Vous êtes un bon gars. Comme Sean. »
Gaspard profita de la brèche. Alors qu'il avait déjà la main sur la poignée de la porte, il fit volte-face et revint vers Pénélope.
« Je sais que c'est extrêmement pénible pour vous d'en parler, mais je voudrais savoir ce qui s'est vraiment passé le jour de l'enlèvement de Julian. »
Elle eut un soupir de lassitude.
« Ça a été décrit dans des dizaines d'articles de journaux.
Je sais, mais c'est de votre bouche que j'aimerais l'entendre. »